suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le premier lundi du mois de juillet. Et puis, comme tous les premiers lundis du mois, c'est l'heure de Tous Essentiels, présenté par Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Oui, salut, et toi ?
Eh bien écoute, ça va bien, ça va bien. Bientôt les vacances.
Ah oui, on les sent déjà, il fait déjà chaud. Écoute, on va recevoir quelqu'un qui va nous rafraîchir.
Ah bon ?
Oui, il s'appelle Bernard Héron. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Et alors Bernard, figure-toi qu'il défend le revenu de base depuis plus de 50 ans.
Wow.
Tu crois ça toi ? Ça fait beaucoup de bien de voir qu'il y a des personnes qui portent l'idée depuis l'UNEF, tu m'as dit, c'est ça ?
C'est ça, je milite à l'UNEF en 65 et ça fait donc plus de 50 ans.
On
réclamait à l'époque le revenu de. On appelait ça une allocation d'études pour tous les étudiants, sans référence au revenu des parents.
Wow. Donc c'était déjà un premier pas et depuis, tu ne lâches pas la barre, tu continues à défendre cette idée jusque sur les ondes de Radio Campus aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, alors bien. Nous, on s'est rencontrés au tout début à l'Assemblée constituante du MFRB,
tout à fait.
Dont tu es cofondateur.
Avec des gens magnifiques comme Frédéric Bosquet, Marc de Bastia. Il y avait Yolande Bresson à l'époque, je crois qu'il était encore vivant.
Oui. Et donc, je renvoie nos auditeurs, tous ceux qui nous sont fidèles, parce qu'ils connaissent déjà ces noms-là. On a déjà fait, pour chacun, une heure d'émission sur chacune de ces versions, que ce soit Fred qui a parlé en direct ici, ou le frère et la belle-sœur de Yolande, puisqu'il nous a quittés pour présenter sa version.
Je l'ai connu dans le cadre de l'air.
Ouais, donc, tous ceux qui veulent en savoir plus pourront retrouver les dernières versions. De chacun. Alors, je te présente très rapidement, mais alors c'est un peu compliqué parce que tu as fait de tout dans ta vie. t'es passé de l'usine au service public, par la banque. Enfin voilà, je n'ai pas trouvé ce que tu n'avais pas fait, mais en tout cas pour faire vite et pour voilà te orienter un petit peu notre discussion, tu as aussi étudié l'économie et la sociologie du travail. Et alors, tu as inventé une version qui m'a beaucoup plu quand j'ai découvert le nom. La première, c'était Remède, revenu économique minimum d'existence et de dignité et émancipateur. J'ai trouvé ça super beau, Remède.
C'est ça. Et c'était à l'époque, j'avais la volonté de créer une sorte de projet politico-économique. Et c'était effectivement, je n'avais pas encore de lien avec le revenu de base, puisque c'est Basic Income. J'ai connu Bernard Kunding sur la Suisse. Et c'est vrai que j'ai repris ensuite le revenu de base, puisque c'était quand même le terme le plus connu. Me remettre, j'aimais bien, je trouvais que ça sonnait bien,
oui. On va le garder un petit peu. Bon, on passera à ta version après, mais d'abord, il faut que tu passes par la question rituelle. Donc, imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois un revenu de base, ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire. C'est individuel, c'est à ton nom, et c'est jusqu'à la fin de ta vie.
Ben oui, c'est le revenu de base. Quoi.
C'est ça. En deux mots, oui.
En deux mots.
Alors, qu'est-ce que ça changerait pour toi ou qu'est-ce que ça aurait changé pour toi dans ton parcours ?
Alors, sûrement, ça aurait changé quelque chose pendant que j'étais étudiant. Lorsque j'étais étudiant, je n'avais pas de revenu par mes parents, puisque mes parents... je n'avais pas de bourse et pas de revenu, puisque mes parents, on était un petit peu fâchés. Et donc, j'étais obligé de travailler pendant ce temps-là. D'où sur mon curriculum vitae, effectivement, j'ai tout fait, pratiquement tout fait, tous les petits boulots pour gagner ma vie. Mais ensuite, j'ai quand même fait une carrière purement informatique. C'était pas, ce n'était pas des petits boulots. Et donc, à l'époque, ça m'aurait effectivement aidé pour faire des études que je voulais. J'aurais plutôt, à l'époque, je faisais des études de biologie. J'aurais bien aimé faire médecine, voilà. Mais ça, c'est pas fait. J'ai fait de l'informatique et j'étais ravi de faire ce métier informatique. Mais maintenant, si je recevais un revenu de base tous les mois, je pense que ça ne me servirait pas puisque j'ai une retraite confortable. Mmh. Mais enfin, pour mes enfants, je sais que ce serait une très bonne chose parce que, en tant que parent responsable et retraité confortable, c'est nous qui aidons nos enfants quand ils sont en difficulté financière.
Mmh. Donc finalement, ça te rassurait de les savoir plus en sécurité. Mais
évidemment,
évidemment.
Et puis ça permet aux jeunes de faire leur projet de vie avec une perspective long terme, alors qu'actuellement c'est plutôt du court terme, voire du rien du tout.
Oui, et puis du coup, avec un revenu de base, on est plus facilement solvable. À partir du moment où on a déjà un revenu de base, voilà, la banque sait qu'on a suffisamment pour vivre, on a déjà les 30% nécessaires minimum, voilà. Tout ce qui est au-dessus est gagné. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, tu vas nous présenter ta version, alors que je vais résumer rapidement, en tout cas au moins par rapport au nom. Tu l'as appelé la RB3I et oui. 3RTT.
Voilà, enfin, c'est associé à la 3RTT. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, le RB3I, c'est parce que c'est revenu de base inconditionnel, individuel, inaliénable. Ça, c'est pour moi la clé. Après, on peut rajouter d'autres termes, mais j'aime bien les sigles. Je trouve que ça permet de retenir plus facilement les termes. Donc, RB3I, revenu de base inconditionnel, individuel, inaliénable.
Donc ça reprend, ça résume la définition en fait.
Voilà, la définition qui avait été pratiquement adoptée lors de l'Assemblée Générale du MFRB.
MFRB, qui a inspiré celle en Europe et voilà. Même à l'international.
Et à l'international, ça s'appelle le bien BIEN, c'est Basic Income Earth
Network.
Voilà. Donc, c'est pour rester un peu dans le... Et j'ai associé à ce que... encore un sigle, hein, désolé. 3RTT. Pourquoi 3RTT? Parce que c'est revenu... Enfin, c'est répartition des richesses, RR, TT, et répartition des richesses et réduction du temps de travail. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est... comme j'ai travaillé beaucoup dans les entreprises, j'ai fait pas mal de réorganisation des horaires et je me suis rendu compte que... on est au mois de mai, hein, et on s'est rendu compte que le mois de mai était complètement aberrant en termes de congés, fériés, chômés, etc. Et donc, moi, ce que je propose pour la réduction du temps de travail, c'est de passer à la semaine de 4 jours et que on vire tous les congés genre 8 mai, 11 novembre, etc. Enfin, tous les qui sont relatifs à des célébrations de guerre ou d'armistice ou n'importe quoi, et de changer par 3 jours laïcs, le 1er janvier, la fête nationale et le 1er mai, qui sont pratiquement dans tous les pays valables, et 3 jours culturel, on va dire, un jour pour les juifs, un jour pour les musulmans et un jour pour les chrétiens, donc Noël, Aït al-Kibir et Kippour.
D'accord.
En gros, donc 6 jours fériés qui soient répartis dans l'année selon les pays d'une manière complètement universelle, puisque ce que je pense, c'est que le revenu de base est aussi un revenu pour être universel, donc aussi bien européen que mondial, si possible, à terme. Voilà.
Oui, donc ce que j'entends dans ton entrée vers le revenu de base, alors c'est évidemment évidemment, oui, la sécurité que ça apporte, mais c'est très lié aussi au temps de travail et donc à ce que c'est que le travail. Dans ton blog, tu te vantes, sans modestie, de n'avoir jamais ni pratiqué, ni fait pratiquer d'heures supplémentaires. Et tu revendiques, de tout ce qui est bénévolat comme du travail. Donc il y a une réflexion sur ce qu'on appelle la valeur travail qu'on a déjà bien épluché. Exactement. Ici sur Radio Campus.
Comme j'ai été politique, ce que j'ai milité en tant qu'écologiste, c'est quelque chose qui vous séparait un peu de LFI actuellement, où la valeur travail est très importante. Mmh. Et pour moi, c'est pas le plus important, surtout avec la robotisation, l'intelligence artificielle, etc. On a déjà vu ce qu'a fait l'informatique dans le domaine des procédures. Et donc, ça va continuer. On est actuellement, Benoît Hamon, à l'époque, revendiquait le fait de taxer les robots comme charge sociale, quoi. Donc, effectivement, je pense qu'on ne va pas vers un. On doit aller vers une réduction du temps de travail, c'est évident.
Je vais me permettre une parenthèse parce que justement tu parles du 1er mai. J'ai commis un article suite à la manifestation du 1er mai où je suis allée interroger ces militants du coup qui se lèvent le 1er mai tôt le matin pour aller manifester à Lille. Et je les ai interrogés un petit peu sur justement alors qu'est-ce qu'ils feraient avec leur revenu de base. Et du coup c'est quoi pour eux la valeur travail, et c'est vrai que c'était très intéressant de voir comment l'idée du revenu de base les interpellait et leur permettait en fait de prendre du recul sur alors déjà valeur travail ou valeur emploi. Donc travail, activité, passion, voilà, une petite réflexion là-dessus. Donc sur l'engagement, mais aussi sur le fait que ce soit rétribué ou pas, est-ce que c'est bénévole, et de se dire finalement que la valeur travail, ce qui nous pousse spontanément dans ça, c'est d'abord l'envie d'être utile, de trouver sa place, et puis d'être épanoui. Donc c'est quelque chose, je vais caricaturer avec un mot de très égoïste, mais parce que ça nous nourrit. Et cette valeur travail n'a de sens que si justement elle nous donne du sens à notre vie, et donc on l'investit volontairement, de façon choisie, et on est tellement plus efficace, s'il fallait parler d'efficacité, de rentabilité, que ce soit en qualité ou même en quantité, quand on a envie de le faire, parce qu'on est poussé par des motivations personnelles. Et c'est pas de la, voilà, c'est pas de l'égoïsme que d'avoir envie de faire quelque chose dont on a envie, tout simplement. C'était très intéressant. Je vous renvoie à notre site,
oui,
revenu-de-base.info.
Je vais regarder.
Petite autopub. Bon, alors, dans ton projet de société... pour toi, ton revenu de base, il est censé apporter quoi ? Qu'est-ce que tu en attends sur le point de vue individuel et collectif ?
Mais d'un point de vue individuel, effectivement, c'est la sécurité. C'est arrêter, de voir des gens qui sont dans la misère noire. C'est dans les pays dans lesquels nous sommes, et même dans, ça pourrait être généralisé. On pourrait très bien imaginer que le FMI, par exemple, distribue un revenu de base mondial. C'est aberrant dans un pays développé comme la France de voir des gens qui sont SDF, qui traînent dans la rue, etc. C'est quand même c'est impossible. Pour moi, c'est quelque chose qui est inimaginable dans ce pays développé. Donc, pour moi, le revenu de base, c'est d'abord une sécurité de la vie. Et ensuite, ça permet justement, tu le disais, négocier. Par exemple, par rapport à un patron, s'il y a un revenu de base, on est capable beaucoup plus facilement de négocier des conditions de travail meilleures. Ça permet aux gens qui veulent rester chez eux pour s'occuper des enfants, pour se former, pour le revenu de base, c'est quand même une liberté majeure pour moi.
Autant pour négocier son rythme de travail, quand on le disait, sur le temps de travail.
Rythme de travail, conditions de travail, c'est vrai que ça donne une capacité de négociation avec, avec son entreprise, avec son patron, avec son... voilà. Donc c'est une, pour moi une liberté supplémentaire qui n'existe pas actuellement.
Donc il faudrait dire ça à tous les syndicats pour qu'ils se rendent compte qu'avec un revenu de base, peut-être qu'il y aurait encore plus de syndiqués puisqu'on pourrait négocier.
Exactement. Ben, moi qui ai été toujours syndiqué dans l'entreprise, effectivement, c'est un problème de le manque de syndiqués dans l'entreprise, c'est un vrai problème.
Max a l'air d'accord.
Non, mais je trouve que tu titilles un petit peu, mais bon, vas-y, je t'en prie.
Je titille les syndicats.
Si peu.
Mais non, je suis syndiquée aussi.
Aussi.
Oui, syndicaliste depuis des années.
Trop de syndicats tue le syndicat. C'est ce qu'on pourrait dire, par exemple, pour les. Ouais, c'est ce que je pense par rapport à l'éducation nationale, par exemple, qui est très mal. Les gens de l'éducation nationale sont très mal défendus par leurs syndicats. Parce qu'il y en a trop, à mon avis.
Ça dépend en quantité ou en qualité. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez, étant de la maison.
Mais... ça a assez de syndiqués, mais un peu trop de syndicats.
Et peut-être qu'ils pourraient travailler plus à une forme d'union. Mais franchement, ces dernières années, ils font de gros efforts là-dessus.
Ah bon
et bon, voilà. Après, les gens n'y croient plus, mais c'est aussi toute une politique de dévalorisation. Et, voilà. Mais en tout cas, effectivement, si...
Je suis syndicaliste et je crois au syndicat et je pense que malheureusement, il n'y a pas assez de syndicats en France. Par rapport à l'Allemagne, par exemple, dans l'entreprise, c'est inimaginable.
Oui, c'est tellement différent. Donc, on va redensifier tout ça. Donc, ton projet de société. Alors, je suis un petit peu. J'ai envie de te titiller un peu, toi aussi. Parce que sur ton blog, tu as rédigé plusieurs articles où tu as exploré l'idée du revenu de base. Alors, moi, je l'ai fait aussi. Hein, je sais pas, la prostitution avec un revenu de base, qu'est-ce que ça deviendrait, etc. Et tu abordes deux sujets, si tu veux bien en dire deux mots. Parce que tu parles des drogues, de l'usage des drogues, et tu parles du terrorisme.
Oui. Alors, pourquoi ? Alors, ça c'est mon côté politique. Alors, je vais d'abord parler des drogues, la médicalisation et enfin légalisation et la médicalisation des drogues. Actuellement, on sait que les drogues dans les quartiers, ça pose des gros problèmes. De sécurité, des guerres de gangs, etc. Mmh. Et si on légalisait, par exemple, toutes les drogues dites douces, ce qui n'est pas toujours ce qui n'est pas vrai, mais les drogues comme le hashish, le marijuana, si on légalisait comme ça se passe au Canada ou dans d'autres pays, ça poserait des problèmes d'économie pour les cités qui sont actuellement, dont la disons qu'ils vivent grâce à cette économie parallèle. Mmh. J'ai un exemple, quand j'habitais Paris, dans le 14e, il y avait une cité qui était reconnue comme étant une cité de deal, et lorsque la BAC a fait une intervention pendant une semaine, plus une semaine, il y a eu une quarantaine de familles qui sont venues voir à la mairie du 14e la personne qui était chargée de l'action sociale, parce qu'il ne s'en sortait plus, il n'y avait plus de revenus.
Mais oui.
Donc, si on légalise et médicalise les drogues, il faut avant distribuer un revenu de base, sinon ça créerait des problèmes majeurs en termes d'économie, en termes de risque pour ces quartiers.
Mais écoute, je te propose une petite pause musicale parce que Max a une inspiration.
Mais oui, j'ai pile poil la bonne chanson, ça va être les Malpolis avec la petite barrette. Et en fait, tout est dit là-dessus. C'est, enfin, voilà, magique.
Trop fort.
Fin de soirée qui se respecte quand il ne reste plus une cacahuète, qu'on commence à se prendre la tête. C'est le nouveau facteur d'ambiance, garantit le label tendance, de toute teuf, faut que t'y penses. Autour de 17 ans, de 18, on se lasse déjà vite de prendre une cuite. Aussi pour que ta fête soit une réussite, sois pas de reste sacrifié au rite. La petite barrette de shit. Un petit joint et tout est plus beau. Ça te donne le regard d'un veau et l'entrain de tout le troupeau. Mais demain, n'essaie pas de te rappeler ce qui t'a fait rire toute la soirée. T'en as pour 3 jours à déprimer. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'entends « C'est naturel, donc excellent, un don de la terre, notre maman. » C'est une vraie manie maintenant de faire l'écolo à 2 francs dès qu'on est à court d'arguments. Encore interdite, toujours pas gratuite, mais de moins en moins secrète ou maudite. C'est le succès grand public, la fin d'un mythe. Y a-t-il encore au monde un seul néophyte? T'es la petite barrette de shit. Attention! Faut croire qu'un joint a pour effet de te persuader quand t'as fumé que t'es beaucoup moins con que bourré. Quand j'entends dire ça ouvre l'esprit, je comprends pas bien et je me dis que ça doit faire courant d'air aussi. Chez les Durand, chez les Dupont, on fume au jardin, au salon, en parlant de légalisation. Parle-en au gars en bas de chez toi, qui vit en te vendant ta ganja, voir si l'idée l'excite autant que toi. J'avoue qu'au moins, elle a ce petit mérite de faire tousser les buveurs d'eau bénite, les faiseurs de morale, les hypocrites. Mais ça me fatigue tout ce beau monde qui milite pour une petite barrette de shit. Sinon la fumée me dérange pas. Non, je ne suis pas un Attila. Derrière moi, l'herbe repoussera. M'en veuillez pas, je suis énervé. Mais hier, j'étais dans une soirée et avec des joueurs de djembé.
Et voilà, c'était les Malpolis sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour l'émission Tous Essentiels, l'émission du revenu de base avec Virginie à la présentation.
Quel à propos, Max. Je suis vraiment épatée de ta culture. Alors, je ne sais pas, de ta culture musicale ou de ta culture de...
Ah, écoute, c'est ça.
Bon, on va revenir à Bernard. Bernard Héron, merci beaucoup d'être là. Là, maintenant, on va passer à une séquence un peu plus concrète. Est-ce que tu peux nous parler de ta version, donc la RB3I Comment est-ce que tu la financerais? Comment est-ce que tu verrais justement les sources de financement pour ça?
Alors, les sources de financement, il y a... Moi, je pense qu'on peut le faire déjà avec deux sources. Mmh. Un revenu par ou une monnaie complémentaire nationale. Donc, comme ça s'est passé, par exemple, dans les pays de Calabre, à Riace, je ne sais pas si tu as entendu parler.
Non.
Riace, c'est un petit village qui a revécu grâce aux migrants. Et qui ont été payés. Donc, il y avait un revenu de base en monnaie locale et qui ont permis de faire revivre ce village. Il y a d'ailleurs une personne qui s'appelle Carla Bianchi, qui est une humoriste italienne et qui a fait un excellent One Woman Show sur ce thème. Et je l'ai vu à Auch, dans le Gers, c'est bizarre, mais elle est passée à Auch et c'était extraordinaire. Et donc c'est Riace, donc c'est en monnaie locale, donc un revenu de base en monnaie locale. Mais on pourrait aussi imaginer qu'il y ait une partie monnaie locale ou monnaie nationale complémentaire avec une monnaie euro ou n'importe quoi.
Je t'interromps, du coup ça m'intéresserait beaucoup que tu m'envoies les informations pour que je puisse alimenter la carte des expérimentations que tout le monde pourra trouver sur revenudebase.info parce que celle-là, je ne l'avais pas.
je te ferai le lien avec une émission sur Open 2 qui avait été faite sur ce petit village de Riace.
D'accord.
D'accord, je t'enverrai le lien.
Merci beaucoup. Et du coup, je sous-titre un peu en parallèle de ce que tu dis pour ceux qui seraient intéressés justement sur ces questions. Je vous renvoie à l'épisode sur Frédéric Bosquet et Terra, tous ensemble,
oui,
vers
Terra.
Un revenu d'autonomie, où il est en train d'expérimenter dans le Lot-et-Garonne, justement.
À l'Ustrac.
Voilà, à l'Ustrac. Ce revenu de base en monnaie locale, etc.
Voilà.
Et je renvoie aussi vers l'épisode avec Maryse Bresson, donc qui est la belle-sœur de Yolan Bresson,
oui,
dont on a parlé, et qui nous présente justement comment Yolan avait préparé, avait pensé un revenu de base en monnaie nationale complémentaire à l'euro, qu'il appelait l'euro franc. Donc je vous renvoie à ces versions-là pour éclairer tes propos.
Et d'ailleurs, j'ai mis des références sur mon site à l'époque, je crois, sur cette monnaie nationale complémentaire. Et oui, j'avais fait un article là-dessus.
Ouais. Mmh, bah super, dans ça va se croiser.
Dans le site, donc, Génération Demain. GénérationDemain.org.
.org.
Voilà.
Et donc,
il est en cours de révision, le site.
Donc, en fait, pour toi, le revenu de base, dans sa version très concrète, il y aurait une partie en monnaie complémentaire, donc soit locale, soit nationale,
voilà,
et une partie en euros.
En euros, voilà.
Qui serait financée comment?
Comment les financements en euros, c'est les impôts avec selon soit un avoir, enfin, alors là, il faudrait voir avec Marc de Bastia. Alors c'est plus technique, hein, j'ai pas envie d'entrer trop dans la technique, c'est des crédits d'impôts ou des impôts qui soient proportionnels. À partir du premier euro gagné au-delà du revenu de base, un impôt proportionnel jusqu'à 50%. Et au-delà des 50%, c'est donc avec une limite de 50%. Tous les revenus supérieurs à deux fois, par exemple, le revenu de base, ce serait taxé à 50%.
Mmh.
Et ce qui permettrait, par exemple, un Bernard Arnault qui recevrait un revenu de base, s'il y a un revenu de 100 millions, il va être taxé sur 50% de ses 100 millions.
Donc je renvoie aussi les auditeurs vers l'émission qu'on a fait avec Marc,
avec
ici
Marc
même.
Avec Marc Bastia, qui voilà, est beaucoup plus technique, hein, au niveau...
Oui, oui, il a été très précis sur ce que tu appelles le crédit d'impôt.
Voilà,
donc, crédit d'impôt. Donc en fait, tu prends la version de Marc, qui est effectivement la moins disante aujourd'hui, mais
voilà,
sans régression sociale, donc celle qui est, qu'on va dire, la plus à droite, et tu l'enrichis avec,
voilà,
une monnaie complémentaire.
Complémentaire, tout à fait.
Et du coup, il y aurait une plus-value économie sociale et solidaire.
Alors, il y aurait aussi, alors, évidemment, la taxe Tobin, enfin l'équivalent de la taxe Tobin qui pourrait
n'a
jamais être mise en place et qui pourrait intervenir.
D'accord.
Et sinon, c'est... alors, il y a aussi un autre volet, c'est les avoirs. Ça, c'est plutôt Thomas Piketty et Jacques Berthillier. C'est la proposition de, en plus du revenu de base, de donner un avoir par la redistribution des richesses de tous les gens qui ont actuellement, je pense à Bernard Arnault, à des Bouygues, à Lagardère et autres, qui ont des avoirs énormes et qui pourraient être redistribués. Alors ça, c'est là, je renvoie vers Thomas Piketty dans le Capital et idéologie, son dernier bouquin, Capital et idéologie, le gros bouquin, et où il propose un capital à tous les jeunes de 25 ans de 125 000 euros. Donc c'est un capital qui leur permet de lancer des projets pour, en plus du revenu de base, un capital de 125 000 euros. Alors ça, c'est Thomas Piketty. Et Jacques Berthillier, lui, propose que ce soit au niveau de l'héritage de ces grosses fortunes, que l'héritage soit réparti d'une manière... Alors là, je le renvoie, je vais faire un résumé sur mon site de son livre, qui son bouquin, c'est « La réforme humaniste du droit de propriété », un bouquin qui avait été préfacé par Albert Jacquard, et qui est un excellent bouquin, à mon avis, qu'on avait remis à jour dans le cadre de l'air avec Marc de Bastiat et tout ça. Jacques Berthier, qui est un monsieur de 86 ans et qui j'ai toujours un très bon contact. Et c'est, enfin, pour moi, une excellente façon de répartir les richesses qui sont dans peu de mains. Je crois que on peut dire que 27 familles au monde répartissent pour la moitié de la moitié des avoirs. Enfin, c'est monstrueux. Donc c'est revoir un peu cette façon de revoir tout. En gros, c'est revoir tout.
En tout cas, merci beaucoup. J'aime beaucoup des personnes qui, comme toi, en quelques mots, réussissent à nous résumer des très gros livres. Moi, j'ai l'impression de gagner du temps de vie. Donc, effectivement, ce que j'entends, c'est que ta version, c'est un mixte du meilleur de toutes les autres versions. Et voilà. Tu l'enrichis. Alors, et par, on l'a vu, l'ouverture vers le partage du travail et donc aussi le partage des richesses, quoi.
Voilà. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, RB3I et 3RTT.
Moi, je l'écris pour m'aider, parce que... mais ça va rentrer.
Je ne sais pas si on a 4 ou 3. C'est redistribution des richesses et réduction du temps de travail, donc 3RTT, c'est bien ça.
Eh bien, il manque le U pour le universel et on aura une bonne formule mathématique là dans tout ça.
Oui. Tout ça pour égal bonheur.
Et le nombre de termes qu'il y a eu, je me souviens qu'on avait été avec, il y avait Yolande Bresson, il y avait même Christine Moutin, il n'y avait pas encore, parce que ce revenu de base a été défendu par Boutin, par Nathalie Kosciusko-Morizet, dont je me souviens, sans parler des Américains, Friedman, etc. Mais et j'ai même été, je dois dire que j'ai même été sollicité par Bruno Le Maire, non pas Bruno Le Maire qu'on connaît, mais Bruno Le Maire, qui était l'économiste de Marine Le Pen. Et donc, il me proposait de faire une réunion. Un débat sur le revenu de base, mais c'était dans un cadre d'extrême droite européenne, ce que j'ai évidemment refusé, mais c'est l'homonyme de Bruno Le Maire, économiste lui aussi.
Voilà. C'est intéressant parce que du coup, il est à noter qu'ils ne se sont pas emparés de l'idée, comme Macron finalement, puisqu'il a essayé de récupérer les mots, mais finalement pour faire quelque chose de complètement dévoyé et de régressif avec son revenu d'universel d'activité. Donc, si l'extrême droite et si les ultralibéraux comme Macron ne veulent pas du revenu de base, c'est peut-être parce que ça nous émanciperait finalement, qu'ils n'en ont pas du tout intérêt.
Il y a ça.
Donc c'est plutôt un compliment, merci beaucoup.
Voilà.
Bon, alors ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans ton travail, c'est qu'au-delà de ce projet, tu as mis les mains dans le cambouis, puisque tu as réfléchi à une expérimentation très très concrète, donc comment on pourrait commencer, et tu as ciblé la Corse. Pourquoi la Corse ?
Alors d'abord, pourquoi la Corse ? La Corse, j'ai fait des études à Nice, à la cité universitaire de Montebello, à Nice. Et à l'époque, il n'y avait pas de faculté à Corte. Donc, là, il y avait pratiquement 50% de Corses qui étaient dans cette cité universitaire.
D'accord.
Et j'ai travaillé avec eux dans le cadre de l'UNES. On avait fait une liste d'union entre l'UNES et les Corses.
Donc, le syndicat étudiant,
Un petit peu à droite à l'époque, mais... En fait, on s'est bien entendu. Et donc, la Corse, je la connais bien. J'avais fait un voyage d'études en Corse pour étudier les petites plantes et les petites bêtes de la Corse. Et depuis, on y va avec la famille. Depuis tous les ans, pratiquement, j'y retourne encore là, cet été. Et c'est vraiment une région que j'adore. Et les Corses, je les apprécie beaucoup. Donc, j'ai fait un article sur mon site où j'indique, et je l'avais même envoyé à Simeoni et à Talaboni, et Marc de Bastiat y avait été aussi pour expliquer que le projet pouvait être mis en place en Corse. Sauf que la Corse, à l'époque, n'était pas ni autonome ni indépendant. Donc, au niveau légal, on ne peut pas avoir de différence dans un pays entre au niveau taxation, etc.
Ben oui.
Voilà. Donc, maintenant que la Corse a voté une certaine autonomie, je pense que ça doit être plus facilement réalisable. Et l'intérêt de la Corse, c'est que c'est une île. Donc, enfin, moi, j'ai fait beaucoup de directions de projet. Et l'intérêt d'une île, c'est qu'on peut contrôler les flux entrant et sortant. Donc, on peut savoir ce qui se passe avant le projet et après le projet.
Donc, pour avoir des indicateurs avec indicateurs, le bon delta,
voilà,
etc.
Pour savoir si, oui ou non, on est arrivé à quelque chose d'intelligent. Et je pense qu'avec la Corse, j'ai tous les éléments pour penser que la Corse pourrait être une excellente région pilote. Moi, je l'ai appelée région pilote. Et je pense aussi que Mayotte pourrait être une excellente façon de prouver que sur une base permettrait beaucoup de choses. Quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Namibie, dans ce petit village où le revenu de base a été mis en place peu de temps, malheureusement, mais des gens qui étaient incultes, qui étaient alcooliques, etc., ça les a fait redémarrer avec des conditions économiques meilleures, les femmes travaillaient, enfin bref. Enfin, il y a plein de choses qui permettraient de vérifier que le revenu de base est une chose qui permet de générer du bien. Voilà.
Je te propose, après ce teasing, de se mettre un peu dans l'ambiance corse, et puis on reviendra plus en détail sur mais qu'est-ce qu'on peut faire en Corse.
Mais oui, avec une fameuse chanson de Fernandel qui est cette fois-ci interprétée par le groupe Chanson plus Bifluoré, le tango corse.
Ah.
La chanson que nous allons vous interpréter maintenant, nous la dédions à la paillote de Francis. Mais nous la dédions également à Jean-Pierre Chevènement, injustement écarté du Parlement. Tu es prêt?
Non.
Mais nous la dédions aussi à Nicolas Sarkozy, champion de la démocratie, et qu'on le remercie de nous donner l'autonomie.
Mais.
Allez, donne-moi un sol.
Quel sol? Je n'en connais qu'un sol. Et les Corses.
Merci, patriote.
Ce n'est pas une mais ça.
Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo.
Le mambo, c'est pas beau.
Ni le bebop, ni la begina.
Ni le rap.
Mais un vrai tango d'origine.
Si, que si, que si.
Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Le tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos. Juste le temps d'un petit tango. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Le tango corse, c'est comme ça. Un jour, des musiciens du Nord avaient joué trop vite et trop fort.
Des fadas.
Un vrai tango de salariés. On les a jamais retrouvés. Ah, le tango corse, c'est un tango sélectionné.
le tango corse pour les courageux fatigués. Chacun ses tirs en même temps que l'accordéon. Et l'on se soupire, le tango corse que c'est bon. Quand à bout de force,
quand à bout de force,
on va s'étendre une heure ou deux.
Une heure ou deux, aïe.
Le tango corse, c'est encore là qu'on lance le mieux.
Et voilà, c'était Chanson Plus Bifioré pour cette émission Tous Essentiels consacrée au revenu de base. Et pourquoi pas un revenu de base en Corse, hein.
Oui, ça sent de plus en plus les vacances. Moi, ça me plaît bien. Alors Bernard, est-ce que tu peux nous développer, ça fait quand même un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, que tu mijotes cette idée de revenu de base et tu as projeté sur la Corse la possibilité de commencer par là en fait. Mais comment ?
Alors pourquoi ? Alors déjà pourquoi la Corse ? C'est parce que en fait c'est une île et que le fait que ce soit une île, tous les flux, que ce soit les flux maritimes, les flux par les aéroports, etc., on est capable de les mesurer, aussi bien les flux de personnes que les flux de biens.
Ça donne des repères.
Que ce soit l'alimentation, etc. Donc tous les échanges commerciaux peuvent être contrôlés d'une manière très, très précise. Sans parler des flux financiers qui, eux, sont naturellement contrôlables au niveau bancaire. Donc l'intérêt du Nil, c'est qu'on peut contrôler les flux de personnes, de biens et de ce qu'on ne peut pas faire dans une région. Par exemple, l'Aquitaine avait été à un moment, on avait essayé de mettre le revenu de base dans l'Aquitaine, mais ça pose des problèmes de flux puisque on n'est pas capable de vérifier tout ce qui se passe à la sortie frontière d'une Aquitaine qui est bon. Donc c'est plus facile
pour analyser l'expérimentation.
Analyser.
Quoi, des indicateurs.
Et donc ça permet de faire des critères avant et après projet pour vérifier si le projet a bien tenu ses promesses. Voilà. Donc ça, c'est l'île. Alors la Corse a des atouts évidents. Donc il y a le tourisme, il y a la pêche, il y a tout un tas d'activités industrielles ou pas. C'est-à-dire que il y a du soleil en Corse et le soleil, ça permet de créer de l'énergie. Alors je pense entre autres qu'on n'a pas assez poussé sur l'hydrogène. On commence à y arriver. Donc il y a des potentiels énergétiques, du potentiel énergétique, un potentiel touristique évident, puisque tous les ans, la Corse est inondée de tourisme.
Oui.
Je crois que ça multiplie par 3 ou 4, si ce n'est pas plus, le nombre de... Enfin, c'est énorme. Je sais que nous, on y va tous les ans et donc on participe à cette
marée humaine.
Ce tourisme de masse. Enfin, on essaye de faire, nous, en sauvage, en plus en camping qu'en hôtellerie. Mais enfin, il y a une possibilité. Vraiment, les Corses ont des atouts majeurs en termes touristiques et même industriels. Au niveau, ils ont entre autres l'industrie de la tout ce qui est CE qui enfin tout ce qui est alimentation, la Coppa, les Figatelli et saucisson corse, les Lonzo, etc. Il y a une capacité industrielle quand même.
C'est alléchant. Alléchant, très alléchant.
Ouais. L'élevage aussi, un élevage sauvage de qualité. Hein. Le cochon corse qui vit, si on va en Corse, on s'aperçoit qu'ils sont sur les routes et ils sont vraiment, ce ne sont pas des cochons élevés
en batterie, quoi.
Comme en Bretagne et en batterie. La pêche locale qui n'est absolument pas productif, c'est une pêche locale qui... disons qu'il y a, il y a des capacités pour la Corse qui sont grandes, et c'est pas par hasard qu'ils demandent une certaine autonomie, sans demander l'indépendance. Voilà.
Alors du coup, quel lien avec le revenu de base
si, un, si, pour moi, c'est une région qui pourrait être considérée comme région pilote pour démontrer que Revue de Base apporte énormément et à la population et que ça reviendrait moins cher que actuellement, je crois que c'est il y a plus de 200 allocations pour dépanner les gens et il y a plus de 200 taxes. C'est-à-dire que si avec un revenu de base, on échappe à toute cette bureaucratie infernale actuellement on considère que les Corses sont des gens privilégiés et c'est pour démontrer que si on enlève tous ces services, soi-disant services, on pourra arriver à quelque chose de beaucoup plus simple.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas si j'avais parlé de Gaspard Koenig. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Gaspard Koenig, philosophe, qui avait essayé de montrer le parti simple. Il voulait se présenter d'ailleurs aux dernières présidentielles. Mmh. Il n'a pas réussi. Il a travaillé avec Marc de Bastia. Ils ont fait un bouquin sur l'Uber et Gaspard Koenig propose donc il a fait tout le tour de France, à cheval, il a fait toutes les petites communes et il s'est rendu compte que c'était infernal. La bureaucratie est infernale pour toute la gestion et donc il propose de supprimer tout un tas de choses et de simplifier le système d'une manière drastique. Et le revenu de base est un moyen de simplifier tout ce qui est bureaucratique pour avoir des aides. Quand on voit, je sais pas, le CERFA du RSA, il est diabolique. Hein. C'est sept pages sont incompréhensibles par le commun des mortels.
Oui, et puis piégeuses et très intrusives, parce que ça pose intrusive, des questions sur la vie affective, la vie etc. Privée,
c'est lamentable.
Et donc, du coup, il y aurait déjà au moins ce levier-là de simplification administrative qui est un frein à l'activité, finalement, aussi un frein au fait de recevoir juste le minimum pour vivre. Donc, une fois que tout le monde a ça, on n'en parle plus. C'est l'avantage de l'inconditionnalité, comme tu disais, le fait que ce soit inconditionnel, c'est un avantage pour les personnes qui reçoivent parce qu'elles ne doivent pas faire toutes les démarches, Et c'est l'avantage pour l'État, si c'est l'État en tout cas qui gère, parce qu'il ne doit pas ni gérer toutes les démarches, ni contrôler, parce que ça demande aussi beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, pour rien. Quoi.
Alors que une distribution à tout le monde, Bernard Arnault y compris, ça ne pose aucun problème de contrôle.
De toute façon, il le repérera en impôt, donc voilà.
Il le repérera 1000 fois en impôt.
Au moins, oui. Donc, si je comprends bien, en partant de la Corse, l'avantage, c'est un, que grâce à l'autonomie de la Corse, on peut faire une expérimentation qui change un peu les données fiscales, parce que c'est interdit par normalement la loi. Bon, je me permets une petite incise pour dire que M. Macron avait promis de faciliter les expérimentations en arrivant au pouvoir. C'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque dès qu'il y a une expérimentation de revenus de base, il la refuse. Et même d'autres expérimentations, même celle d'ATD, par exemple, sur territoire zéro chômeur, longue durée ou autre. Donc dès que ça l'arrange pas, il refuse. Mais l'autonomie de la Corse permettrait de s'affranchir de cet accord présidentiel. Donc on pourrait infléchir un petit peu certains leviers fiscaux pour simplifier et partir des ressources locales pour quelque chose finalement qui serait de l'économie plus adéquate et plus adaptée à chaque territoire.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et donc une partie serait redistribuée en monnaie locale, comme tu disais.
Et sans être dépendant d'un État un peu souverain, vertical. Quoi. Donc essayer de reprendre une certaine horizontalité. Repartir sur le terrain, sur le local, plutôt que d'attendre de l'État français que tout vienne. Quoi.
Oui, je trouve qu'il y a une double, même un triple avantage à ça. C'est-à-dire que, un, il y a une plus-value sociale, puisque dans un territoire donné, tout le monde a le minimum pour vivre. Donc j'imagine qu'en termes de paix intérieure, moins de charges mentales, etc., et de paix sociale, ça peut aider. Il y a une plus-value économique. Alors tu faisais référence à la... à l'expérimentation en Namibie, je peux développer quelques chiffres. Effectivement, sur un village de 1000 habitants environ, pendant seulement 18 mois, ils ont fait une expérimentation de donner un revenu de base à chaque habitant adulte. Et comme tu disais, comme c'est un village assez isolé, ils ont pu calculer les flux, notamment de monnaie.
Voilà.
Et ils ont repéré qu'il y avait la masse monétaire du village a été multipliée par 3 en seulement 18 mois. Et chaque habitant a eu plus de 30% de revenus propres au-delà de ce que ce fameux revenu de base leur donnait.
Donc, sans parler d'éducation, de l'industrialisation, etc. Parce que les femmes faisaient leur pain, vendaient leur pain, les enfants étaient enfin éduqués à l'école, etc.
Oui. Et en termes d'économie, si on reste sur cette histoire de flux dont tu parlais, ce qui a joué aussi, c'est que cette femme, par exemple, que tu prends comme exemple, qui sait faire du pain mais qui a des enfants à garder, ne peut pas candidater pour un poste d'employé. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de patrons dans un village de 1000 habitants.
Voilà.
Et donc là, elle pouvait partir de ses propres compétences en respectant son rythme de vie et notamment ses engagements de maman pour créer sa propre activité. Et donc, ça a été une explosion de micro-entreprises et donc d'activités locales avec production et consommation locale. Donc là, c'est vraiment le levier économique. Et jouer un troisième levier à ton idée, c'est aussi le levier écologique. Puisque, là, tu as parlé de toutes les plus-values du territoire corse. Mais évidemment, les Corses ne vont pas vouloir rajouter des choses qui seraient néfastes et à leur santé et à leur environnement. Donc, ça va orienter aussi les choix d'exploitation, entre guillemets, de la nature. Et donc, on peut avoir comme ça une re-responsabilisation, parce qu'une redémocratisation d'un territoire. Et je trouve que c'est un cercle vertueux très intéressant.
Mais c'est pour ça que je pense que les Corses, peut-être, vont s'emparer de ce sujet. Marc de Bastia y avait rencontré le conseil régional, je pense, à l'époque. Je pense qu'il va relancer l'affaire. En tous les cas, moi, je vais encore cet été, et si c'est possible, j'aimerais bien aller faire un petit tour de ce côté-là.
On est tous avec toi. Et alors, si tu peux leur rajouter que Frédéric Bosquet a commencé à faire des formations pour que son projet Terra soit transférable.
Oui, transférable, oui, tout à fait.
Je pense qu'avec cette formation-là, ils pourront l'étendre au moins au village et sinon aux deux départements.
J'ai vu effectivement qu'ils faisaient la formation pour étendre le concept qui est vachement intéressant.
Mais complètement.
Oui, j'ai participé à mon petit truc. J'ai financé une toute petite partie de ce projet. Et Frédéric Bosquet, pour moi, est un personnage. C'est lui qui avait mis en place la Violette.
Le local de Toulouse.
Le local de Toulouse. Donc, c'est vraiment un personnage vraiment très intéressant.
Alors, qui est aussi entouré d'une sacrée équipe, nous ne les oublions pas.
Oui.
En tout cas, on peut glisser que tous ceux qui veulent soutenir cette expérimentation qui a vertu à diffuser et à polliniser partout, dans tous les villages qui voudraient se redynamiser, reprendre leur économie en main. Et donc voilà, vous tapez terra.coop, terra.coop, si vous avez envie, ne serait-ce que de vous faire du bien en voyant quelque chose qui marche et qui est généralisable, complètement. Et puis, pourquoi pas donner un petit peu de sous pour faciliter. Et donc, et j'avais vu, parce qu'il nous reste que quelques minutes, tu faisais aussi le lien avec Mayotte.
Alors, quand il y a eu les problèmes de Mayotte et que, qu'il y a toujours des problèmes.
Oui, avec tous les Comoriens qui arrivent.
Et là, entre autres, avec l'immigration des Comores et autres, je pense que, pareil, il est possible, comme c'est une île, de contrôler les flux, que ce soit les flux migratoires et autres. Et je pense qu'un revenu de base permettrait aux migrants, que les migrants n'existent pas qu'à Mayotte, il y en a aussi en Méditerranée, et je pense que la migration pour contrôler, entre autres, grâce au revenu de base. C'est-à-dire que tout migrant qui a envie d'aller en Angleterre, qui a envie d'aller n'importe où pour, parce que il va y avoir une migration écologique, enfin climatique monstrueuse dans les prochaines années. Il faut prévoir ça et il faut prévoir que ces gens-là, il faut leur donner toutes les capacités pour pouvoir aller où ils veulent et mais d'une manière digne. C'est-à-dire que quand je vois les tentes à Paris ou à la région de Calais, etc., c'est monstrueux. Alors que ces gens-là, avec un revenu de base, comme ça s'est passé à Riace, en Calabre, hein, j'en parlais tout à l'heure, ça, au contraire, les migrants sont des moyens de dynamiser des régions qui, actuellement, sont en train de mourir. Donc, moi, je pense à l'Auvergne, que je connais bien aussi. Je pense que des migrants arrivant en Auvergne, avec un revenu de base, pourraient développer des compétences, des industries et autres qu'on n'imagine même pas. Enfin, pour moi, Riace, je vais mettre je vais t'envoyer le lien.
Oui, je le rajouterai à la carte. Ce qui est intéressant par rapport au flux, c'est on a, alors pareil, par rapport aux expérimentations, une indication, notamment par rapport à l'exode rural, puisque avec un revenu de base, les gens pourraient rester dans leur région d'affection. Je vous renvoie justement à toutes les chansons sur la Corrèze en ce moment qui nous font danser régulièrement, où on pourrait rester dans notre région et la redynamiser de l'intérieur. Donc c'est aussi un levier très intéressant. Et aussi, par rapport aux migrations extérieures, je vous renvoie au rapport d'Oxfam, qui est une ONG très sérieuse et qui prouve par A plus B que l'immigration en France est une source de richesse. Pour les Français individuellement et collectivement. Et après, on peut toujours rêver que ce soit un levier aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'expérimentations en Afrique, tu citais l'Afrique, ou plutôt l'Afrique subsaharienne, sur des expérimentations sur 12 ans, par exemple, de revenus de base. Et donc, on peut imaginer aussi que d'autres pays s'y mettraient et que chacun pourrait vraiment avoir le choix, soit de rester chez soi, avec sa famille et là où il a grandi, soit de partir et d'enrichir avec des échanges. Mais de façon choisie réciproquement, c'est ça qui est intéressant.
Les gens ont envie de rester, enfin, la majorité des gens préféreraient rester chez eux dans de bonnes conditions, c'est évident, plutôt que de partir à l'aventure et dans des conditions lamentables.
Juste pour pouvoir espérer nourrir sa famille de loin, c'est quand
exactement. J'ai connu pas mal de... Mais quand j'habitais Paris dans le 14e, je m'étais occupé d'un squat de la tombe d'histoire. C'était des Ivoiriens à l'époque. Et c'était même des foyers des Arbus, c'était des gens qui travaillaient pour la mairie de Paris. Et ils envoyaient au bled, ils envoyaient pratiquement 200 € par mois. C'était, par rapport à leur revenu, c'était dingue. C'était pour faire vivre leur famille, soit au Mali, soit en Côte d'Ivoire, soit en Algérie, enfin bon. Et ces gens-là se saignaient pour leur famille là-bas.
Je pense qu'il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, une redistribution des richesses nord-sud et une décolonisation de nos esprits. On va devoir terminer là, cher Bernard. Mais du coup, je vais juste redonner pour les auditeurs ton site, Génération Demain, tout collé. .org pour retrouver tes articles et redécouvrir tout ça. Un grand merci. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir quelqu'un qui tient le combat depuis 50 ans. Franchement, c'est inspirant et ça soutient. Merci beaucoup.
Eh bien, je t'en prie. Allez, bon courage à toi aussi.
À très bientôt.
Et merci pour tout. Au revoir
Bernard.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, nous, on se retrouve le mois prochain, sans doute.
Eh bien oui, vacances ou pas, on y sera.
Ok.
Premier lundi du mois.
Bye.
Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Ah, ah. Oui, essentiel, jour, jour. Verser Coursat au champ,